Jules Verne, L'île mystérieuse, chapitre 20. Les choses se passèrent ainsi que l'avait prévu Pencroff, car ses pressentiments ne pouvaient tromper. Le vent vint à fraîchir, et de bonne brise, il passa à l'état de coup de vent, c'est-à-dire qu'il acquit une vitesse de 40 à 45 milles à l'heure, et qu'un bâtiment en pleine mer eût été au Baris, avec ses perroquets calés. Or, comme il était environ 6 heures quand le Bonadventure fut par le travers du golfe, et qu'en ce moment le jusant se faisait sentir, il fut impossible d'y entrer. Force fut donc de tenir le large, car lors même qu'il l'aurait voulu, Pencroff n'eût pas même pu atteindre l'embouchure de la Mercy. Donc, après avoir installé son foc au grand mât en guise de tourmentin, il attendit en présentant le cap à terre. Très heureusement, si le vent fut fort, la mer, couverte par la côte, ne grossit pas extrêmement. On n'eut donc pas à redouter les coups de lame, qui sont un grand danger pour les petites embarcations. Le Bonadventure n'aurait pas chaviré sans doute, car il était bien lesté. Mais d'énormes paquets d'eau tombant à bord aurait pu le compromettre, si les panneaux n'avaient pas résisté. Pencroff, en habile marin, para à tout événement. Certes, il avait une confiance extrême dans son embarcation, mais il n'en attendit pas moins le jour avec une certaine anxiété. Pendant cette nuit, Cyrus Smith et Gédéon Spilett n'eurent pas l'occasion de causer ensemble. Et cependant la phrase prononcée à l'oreille du reporter par l'ingénieur valait bien que l'on discutât encore une fois cette mystérieuse influence qui semblait régner sur l'île Lincoln. Gédéon Spilett ne cessa de songer à ce nouvel et inexplicable incident, à cette apparition d'un feu sur la côte de l'île. Ce feu, il l'avait bien réellement vu. Ses compagnons, Harbert et Pencroff, l'avaient vu comme lui. Ce feu leur avait servi à reconnaître la situation de l'île pendant cette nuit sombre, et ils ne pouvaient douter que ce ne fût la main de l'ingénieur qui l'eût allumé. Et voilà que Cyrus Smith déclarait formellement qu'il n'avait rien fait de tel. Gédéon Spilett se promit de revenir sur cet incident, dès que le Bonadventure serait de retour, et de pousser Cyrus Smith à mettre ses compagnons au courant de ces faits étranges. Peut-être se déciderait-on alors à faire en commun une investigation complète de toutes les parties de l'île Lincoln. Quoi qu'il en soit, ce soir-là, aucun feu ne s'alluma sur ces rivages, inconnus encore, qui formaient l'entrée du golfe, et la petite embarcation continua de se tenir au large pendant toute la nuit. Quand les premières lueurs de l'aube se dessinèrent sur l'horizon de l'est, le vent, qui avait légèrement calmi, tourna de 2 quarts, et permit à Pencroff d'embouquer plus facilement l'étroite entrée du golfe. Vers 7 heures du matin, le Bonadventure, après avoir laissé porter sur le cap Mandibule Nord, entrait prudemment dans la passe et se hasardait sur ses eaux, renfermées dans le plus étrange cadre de lave. « Voilà, dit Pencroff, un bout de mer qui ferait une rade admirable, où des flottes pourraient évoluer à leur aise. » Ce qui est surtout curieux, fit observer Cyrus Smith, c'est que ce golfe a été formé par 2 coulées de lave, vomies par le volcan, qui se sont accumulées par des éruptions successives. Il en résulte donc que ce golfe est abrité complètement sur tous les côtés, et il est à croire que même par les plus mauvais vents, la mer y est calme comme un lac. Sans doute, reprit le marin, puisque le vent, pour y pénétrer, n'a que cet étroit goulet, creusé entre les 2 caps, et encore le cap du nord couvre-t-il celui du sud, de manière à rendre très difficile l'entrée des rafales. En vérité, notre Bonadventure pourrait y demeurer d'un bout de l'année à l'autre sans même se raidir sur ses ancres. C'est un peu grand pour lui, fit observer le reporter. Eh, monsieur Spilett, répondit le marin, je conviens que c'est trop grand pour le Bonadventure. Mais si les flottes de l'Union ont besoin d'un abri sûr dans le Pacifique, je crois qu'elles ne trouveront jamais mieux que cette rade. Nous sommes dans la gueule du requin, fit alors observer Nab en faisant allusion à la forme du golfe. En pleine gueule, mon brave Nab, répondit Harbert. Mais vous n'avez pas peur qu'elle se referme sur nous, n'est-ce pas ?
Non, monsieur Harbert, répondit Nab. Et pourtant, ce golfe-là ne me plaît pas beaucoup. Il a une physionomie méchante.
Bon, s'écria Pencroff. Voilà Nab qui déprécie mon golfe, au moment où je médite d'en faire hommage à l'Amérique.
Mais au moins les eaux sont-elles profondes ? Demanda l'ingénieur. Car ce qui suffit à la quille du Bonadventure ne suffirait pas à celle de nos vaisseaux cuirassés.
Facile à vérifier, répondit Pencroff.
Et le marin envoya par le fond une longue corde qui lui servait de ligne de sonde et à laquelle était attaché un bloc de fer. Cette ligne mesurait environ 50 brasses et elle se déroula jusqu'au bout, sans heurter le sol.
Allons, fit Pencroff. Nos vaisseaux peuvent venir ici. Ils n'échoueront pas.
En effet, dit Cyrus Smith, c'est un véritable abîme que ce golfe. Mais en tenant compte de l'origine plutonienne de l'île, il n'est pas étonnant que le fond de la mer offre de pareilles dépressions.
On dirait aussi, fit observer Harbert, que ces murailles ont été coupées à pic. Et je crois bien qu'à leurs pieds, même avec une sonde 5 ou 6 fois plus longue, Pencroff ne trouverait pas de fond.
Tout cela est bien, dit alors le reporter. Mais je ferai remarquer à Pencroff qu'il manque une chose importante à sa rade.
Et laquelle, monsieur Spilett ?
Une coupée, une tranchée quelconque, qui donne accès à l'intérieur de l'île. Je ne vois pas un point sur lequel on puisse prendre pied.
Et en effet, les hautes laves, très accores, n'offraient pas sur tout le périmètre du golfe un seul endroit propice à un débarquement. C'était une infranchissable courtine qui rappelait, mais avec plus d'aridité encore, les fjords de Norvège. Le Bonadventure, rasant ses hautes murailles à les toucher, ne trouva pas même une saillie qui pût permettre aux passagers de quitter le bord. Pencroff se consola, en disant que, la mine aidant, on saurait bien éventrer cette muraille lorsque cela serait nécessaire. Et puisque décidément il n'y avait rien à faire dans ce golfe, il dirigea son embarcation vers le goulet et en sortit vers 2 heures du soir.
« Ouf !» fit Nab, en poussant un soupir de satisfaction. On eût vraiment dit que le brave nègre ne se sentait pas à l'aise dans cette énorme mâchoire. Du cap Mandibule à l'embouchure de la Mercy, on ne comptait guère qu'une 80 000. Le cap fut donc mis sur Granite House, et le Bonadventure, avec du largue dans ses voiles, prolongea la côte à 1 mille de distance. Aux énormes roches laviques succédèrent bientôt ces dunes capricieuses, entre lesquelles l'ingénieur avait été si singulièrement retrouvé, et que les oiseaux de mer fréquentaient par centaines. Vers 4 heures, Pencroff, laissant sur sa gauche la pointe de l'îlot, entrait dans le canal qui le séparait de la côte. Et à 5 heures, l'ancre du Bonadventure mordait le fond de sable à l'embouchure de la Mercy. Il y avait 3 jours que les colons avaient quitté leur demeure. Ayrton les attendait sur la grève, et maître Jup vint joyeusement au-devant d'eux, en faisant entendre de bons grognements de satisfaction. L'entière exploration des côtes de l'île était donc faite, et nulle trace suspecte n'avait été observée. Si quelque être mystérieux y résidait, ce ne pouvait être que sous le couvert des bois impénétrables de la presqu'île Serpentine, là où les colons n'avaient encore porté leur investigation. Gédéon Spilett s'entretint de ces choses avec l'ingénieur, et il fut convenu qu'ils attireraient l'attention de leurs compagnons sur le caractère étrange de certains incidents qui s'était produit dans l'île, et dont le dernier était l'un des plus inexplicables. Aussi Cyrus Smith, revenant sur ce fait d'un feu allumé par une main inconnue sur le littoral, ne put s'empêcher de redire 20e fois au reporter « Mais êtes-vous sûr d'avoir bien vu ? N'était-ce pas une éruption partielle du volcan ? Un météore quelconque ?»«
Non, Cyrus, » répondit le reporter. C'était certainement un feu allumé de main d'homme. Du reste, interrogé Pencroff et Harbert, ils ont vu, comme j'ai vu moi-même,
et ils confirmeront mes paroles. » Il s'ensuivit donc que quelques jours après, le 25 avril, pendant la soirée, au moment où tous les colons étaient réunis sur le plateau de Grande-Vue, Cyrus Smith prit la parole en disant « Mes amis, je crois devoir appeler votre attention sur certains faits qui se sont passés dans l'île et au sujet desquels je serais bien aise d'avoir votre avis. Ces faits sont, pour ainsi dire, surnaturels. »«
Surnaturels ? » s'écria le marin en lançant une bouffée de tabac.
« Se pourrait-il que notre île fût surnaturelle ?»«
Non, Pencroff, mais mystérieuse à coup sûr, » répondit l'ingénieur.
« À moins que vous ne puissiez nous expliquer ce que Spilett et moi, nous n'avons pu comprendre jusqu'ici. »«
Parlez, monsieur Cyrus, » répondit le marin.
« Eh bien, avez-vous compris, » dit alors l'ingénieur, « comment il a pu se faire qu'après être tombé à la mer, j'ai été retrouvé à un quart de mille à l'intérieur de l'île, et cela sans que j'aie eu conscience de ce déplacement.
À moins que, étant évanoui, dit Pencroff,
ce n'est pas admissible, répondit l'ingénieur. Mais passons. Avez-vous compris comment Top a pu découvrir votre retraite, à 5 milles de la grotte où j'étais couché?
L'instinct du chien, répondit Harbert.
« Singulier instinct, » fit observer le reporter, « puisque malgré la pluie et le vent qui faisaient rage pendant cette nuit, Top arriva aux cheminées sec et sans une tache de boue. »«
Passons, » reprit l'ingénieur.
« Avez-vous compris comment notre chien fut si étrangement rejeté hors des eaux du lac, après sa lutte avec le dugong ?»«
Non, pas trop, je l'avoue, » répondit Pencroff. Et la blessure que le dugong avait au flanc, blessure qui semblait avoir été faite par un instrument tranchant, ne se comprend pas davantage.
Passons encore, reprit Cyrus Smith. Avez-vous compris, mes amis, comment ce grain de plomb s'est trouvé dans le corps du jeune pécari? Comment cette caisse s'est si heureusement échouée, sans qu'il y ait eu trace de naufrage? Comment cette bouteille renfermant le document s'est offerte si à propos? Lors de notre première excursion en mer, comment notre canot, ayant rompu son amarre, est venu par le courant de la Mercy, nous rejoindre précisément au moment où nous en avions besoin? Comment, après l'invasion des singes, l'échelle a été si opportunément renvoyée des hauteurs de Granite House? Comment enfin le document qu'Ayrton prétend n'avoir jamais écrit est tombé entre nos mains? Cyrus Smith venait d'énumérer, sans en oublier un seul, les faits étranges qui s'étaient accomplis dans l'île. Harbert, Pencroff et Nab se regardèrent, ne sachant que répondre, car la succession de ces incidents ainsi groupés pour la première fois ne laissa pas de les surprendre au plus haut point.
Sur ma foi, dit enfin Pencroff, vous avez raison, monsieur Cyrus, et il est difficile d'expliquer ces choses-là.
Eh bien, mes amis, reprit l'ingénieur. Un dernier fait est venu s'ajouter à cela, et il est non moins incompréhensible que les autres.
Lequel, monsieur Cyrus ? Demanda vivement Harbert.
Quand vous êtes revenu de l'île Tabor, Pencroff, reprit l'ingénieur, vous dites qu'un feu vous est apparu sur l'île Lincoln.
Certainement, répondit le marin.
Et vous êtes bien certain de l'avoir vu, ce feu.
Comme je vous vois.
« Toi aussi, Harbert. »«
Ah, monsieur Cyrus, » s'écria Harbert, « ce feu brillait comme une étoile de première grandeur. »
« Mais n'était-ce point une étoile ? » demanda l'ingénieur en insistant.
« Non, » répondit Pencroff, « car le ciel était couvert de gros nuages, et une étoile, en tout cas, n'aurait pas été si basse sur l'horizon. Mais monsieur Spilett l'a vu comme nous, et il peut confirmer nos paroles. »
J'ajouterais, dit le reporter, que ce feu était très vif et qu'il projetait comme une nappe électrique.
Oui, oui, parfaitement, répondit Harbert, et il était certainement placé sur les hauteurs de Granite House.
Eh bien, mes amis, répondit Cyrus Smith, pendant cette nuit du 19 au 20 octobre, ni Nab ni moi n'avons allumé un feu sur la côte.
Vous n'avez pas...
s'écria Pencroff, au comble de l'étonnement, et qui ne put même achever sa phrase.
Nous n'avons pas quitté Granite House, répondit Cyrus Smith, et si un feu a paru sur la côte, c'est une autre main que la nôtre qui l'a allumé.
Pencroff, Harbert et Nab étaient stupéfaits. Il n'y avait pas eu d'illusion possible, et un feu avait bien réellement frappé leurs yeux pendant cette nuit du 19 au 20 octobre.
Oui, ils durent en convenir, un mystère existait. Une influence inexplicable, évidemment favorable aux colons, mais fort irritante pour leur curiosité, se faisait sentir, et comme à point nommé sur l'île Lincoln. Y avait-il donc quelque être caché dans ses plus profondes retraites? C'est ce qu'il faudrait savoir à tout prix.
Cyrus Smith rappela également à ses compagnons la singulière attitude de Top et de Jup quand ils rôdaient à l'orifice du puits qui mettait Granite House en communication avec la mer, et il leur dit qu'il avait exploré ce puits sans y découvrir rien de suspect. Enfin, la conclusion de cette conversation fut une détermination, prise par tous les membres de la colonie, de fouiller entièrement l'île, dès que la belle saison serait revenue. Mais depuis ce jour, Pencroff parut être soucieux. Cette île dont il faisait sa propriété personnelle, il lui sembla qu'elle ne lui appartenait plus tout entière, et qu'il la partageait avec un autre maître, auquel, bon gré mal gré, il se sentait soumis. Nab et lui causaient souvent de ces inexplicables choses, et tous deux, très portés au merveilleux par leur nature même, n'étaient pas éloignés de croire que l'île Lincoln ne fût subordonnée à quelque puissance surnaturelle. Cependant, les mauvais jours étaient venus avec le mois de mai, novembre des zones boréales. L'hiver semblait devoir être rude et précoce. Aussi les travaux d'hivernage furent-ils entrepris sans retard. Du reste, les colons étaient bien préparés à recevoir cet hiver, si dur qu'il dût être. Les vêtements de feutre ne manquaient pas, et les mouflons, nombreux alors, avaient abondamment fourni la laine nécessaire à la fabrication de cette chaude étoffe. Il va sans dire qu'Ayrton avait été pourvu de ses confortables vêtements. Cyrus Smith lui offrit de venir passer la mauvaise saison à Granite House, où il serait mieux logé qu'au corral, et Ayrton promit de le faire, dès que les derniers travaux du corral seraient terminés, ce qu'il fit vers la mi-avril. Depuis ce temps-là, Ayrton partagea la vie commune et se rendit utile en toute occasion. Mais toujours humble et triste, il ne prenait jamais part au plaisir de ses compagnons. Pendant la plus grande partie de ce troisième hiver que les colons passaient à l'île Lincoln, ils demeurèrent confinés dans Granite House. Il y eut de très grandes tempêtes et des bourrasques terribles qui semblaient ébranler les roches jusque sur leur base. D'immenses rats de marée menacèrent de couvrir l'île en grand, et certainement tout navire mouillé sur les atterrages s'y fut perdu corps et biens. Deux fois, pendant une de ces tourmentes, la Mercy grossit au point de donner lieu de craindre que le pont et les ponceaux ne fussent emportés. Et il fallut même consolider ceux de la grève, qui disparaissaient sous les couches d'eau, quand la mer battait le littoral. On pense bien que de tels coups de vent, comparables à des trombes, où se mélangeaient la pluie et la neige, causèrent des dégâts sur le plateau de Grande-Vue. Le moulin et la basse-cour eurent particulièrement à souffrir. Les colons durent souvent y faire des réparations urgentes, sans quoi l'existence des volatiles eût été sérieusement menacée. Par ces grands mauvais temps, quelques couples de jaguars et des bandes de quadrumanes s'aventuraient jusqu'à la lisière du plateau. Et il était toujours à craindre que les plus souples et les plus audacieux, poussés par la faim, ne parvinssent à franchir le ruisseau, qui d'ailleurs, lorsqu'il était gelé, leur offrait un passage facile. Plantations et animaux domestiques eussent été infailliblement détruits alors, sans une surveillance continuelle, et souvent il fallut faire le coup de feu pour tenir à respectueuse distance ces dangereux visiteurs. Aussi la besogne ne manqua-t-elle pas aux hiverneurs, car sans compter les travaux du dehors, il y avait toujours 1000 travaux d'aménagement à Granite House. Il y eut aussi quelques belles chasses, qui furent faites par les grands froids, dans les vastes marais des Tadornes. Gédéon Spilett et Harbert, aidés de Jup et de Top, ne perdaient pas un coup au milieu de ces myriades de canards, de bécassines, de sarcelles, de pillets et de vanneaux. L'accès de ce giboyeux territoire était facile d'ailleurs, soit que l'on s'y rendît par la route du Port-Ballon, après avoir passé le pont de la Mercy, soit en tournant les roches de la pointe de l'épave, et les chasseurs ne s'éloignaient jamais de Granite House au-delà de 2 ou 3 milles. Ainsi se passèrent les 4 mois d'hiver, qui furent réellement rigoureux, c'est-à-dire juin, juillet, août et septembre. Mais en somme, Granite House ne souffrit pas trop des inclémences du temps, et il en fut de même au Corral, qui, moins exposé que le plateau et couvert en grande partie par le mont Franklin, ne recevait que les restes des coups de vent déjà brisés par les forêts et les hautes roches du littoral. Les dégâts y furent donc peu importants, et la main active et habile d'Ayrton suffit à les réparer promptement, quand dans la seconde quinzaine d'octobre, il retourna passer quelques jours au Corral. Pendant cet hiver, il ne se produisit aucun incident inexplicable. Rien d'étrange n'arriva, bien que Pencroff et Nab fussent à l'affût des faits les plus insignifiants, qu'ils eussent pu rattacher à une cause mystérieuse. Top et Jup eux-mêmes ne rôdaient plus autour du puits, et ne donnaient aucun signe d'inquiétude. Il semblait donc que la série des incidents surnaturels fût interrompue. Bien qu'on en causât souvent pendant les veillées de Granite House, et qu'il demeura bien convenu que l'île serait fouillée jusque dans ses parties les plus difficiles à explorer. Mais un événement de la plus haute gravité, et dont les conséquences pouvaient être funestes, vint momentanément détourner de leur projet Cyrus Smith et ses compagnons. On était au mois d'octobre. La belle saison revenait à grands pas. La nature se renouvelait sous les rayons du soleil, et au milieu du feuillage persistant des conifères, qui formait la lisière du bois, apparaissait déjà le feuillage nouveau des micocouliers, des banksias et des déodars. On se rappelle que Gédéon Spilett et Harbert avaient pris à plusieurs reprises des vues photographiques de l'île Lincoln. Or, le 17 de ce mois d'octobre, vers 3 heures du soir, Harbert, séduit par la pureté du ciel, eut la pensée de reproduire toute la baie de l'Union qui faisait face au plateau de Grande Vue, depuis le cap Mandibule jusqu'au cap Griffe. L'horizon était admirablement dessiné, et la mer, ondulant sous une brise molle, présentait à son arrière-plan l'immobilité des eaux d'un lac, piquetée çà et là de paillons lumineux. L'objectif avait été placé à l'une des fenêtres de la grande salle de Granite House, et par conséquent il domina la grève et la baie. Harbert procéda comme il avait l'habitude de le faire, et le cliché obtenu, il alla le fixer au moyen des substances qui étaient déposées dans un réduit obscur de Granite House. Revenu en pleine lumière, en l'examinant bien, Harbert aperçut sur son cliché un petit point presque imperceptible qui tachait l'horizon de mer. Il essaya de le faire disparaître par un lavage réitéré, mais il ne put y parvenir. C'est un défaut qui se trouve dans le verre, pensa-t-il. Et alors il eut la curiosité d'examiner ce défaut avec une forte lentille, qu'il dévissa de l'une des lunettes. Mais à peine eut-il regardé, qu'il poussa un cri, et que le cliché faillit lui échapper des mains. Courant aussitôt à la chambre où se tenait Cyrus Smith, il tendit le cliché et la lentille à l'ingénieur, en lui indiquant la petite tache. Cyrus Smith examina ce point. Puis, saisissant sa longue-vue, il se précipita vers la fenêtre. La longue-vue, après avoir parcouru lentement l'horizon, s'arrêta enfin sur le point suspect. Et Cyrus Smith, l'abaissant, ne prononça que ce mot. « Navire ». Et en effet, un navire était en vue de l'île Lincoln.